Hassan Aslafi est le fils d'une famille de 7 enfants. Il a vécu son adolescence dans une banlieue de Saint-Étienne qui maintenant est un quartier estampillé difficile. Élevé par une mère espagnole et un père marocain, cet environnement, il l'a quitté pour voyager, se construire, avec le souci d'éviter l'enfermement social, culturel comme géographique. Il est revenu de ses longs voyages, notamment en Orient et Moyen-Orient, avec l'envie de renouer avec la terre, en entamant des études agricoles. Et quelques années plus tard, le voilà qui remet au goût du jour, avec l'aide de l'Orange Bleu, une ONG, une céréale oubliée du Burkina Faso et du Sénégal, le fonio. Il ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il travaille sur la culture arabo-andalouse, afin de créer des ponts entre les cultures et les générations. Voici un entretien avec Hassan Aslafi, coordinateur général de l'Orange Bleu.
Donc effectivement, on est à Saint-Étienne, dans un des quartiers difficiles d'aujourd'hui. Mon adolescence s'est passée entre Laugirel et la Cotonne, et les Stéphanois sauront de quoi je parle. Dans un environnement classique d'une famille maghrébine, un père OS dans une usine de vélo, et une mère de famille avec 7 enfants. Dans cet environnement-là, où en dehors du cadre chaleureux traditionnel du milieu familial marocain, et qui a ses vertus. Nous avons bénéficié d'un cadre d'éducation traditionnelle encore maîtrisé à l'époque, dans les années 70-80, et qui nous a quand même permis, les uns et les autres, d'être relativement outillés en sens de l'effort, courage. Mais une des particularités quand même, c'était un contexte de parents analphabètes, et où les cadres d'alors n'étaient pas forcément en place pour accompagner au mieux des gens qui provenaient de ce type de milieu. Et je me souviens que les premiers déclics chez moi ont été quand j'ai constaté qu'à différentes reprises, mon père était arrêté par des policiers en voiture et qu'une de ses difficultés, c'est qu'il ne savait pas lire et c'est qu'il s'exprimait mal. Et on a souvent eu ce cas de figure chez des jeunes de l'immigration, c'est de se retrouver dans une situation d'être gêné par l'analphabétisme et l'ignorance de ses parents et la domination d'un environnement et d'un milieu qui se traduit souvent par une certaine discrimination, voire un certain mépris. Donc c'est un petit peu ces quelques éléments de départ, mais également le constat au niveau de mon adolescence et de l'évolution comme jeune adulte, qu'une des différences fondamentales entre moi, les jeunes amis du quartier provenant du même milieu, et d'autres que nous pouvions côtoyer grâce à la mixité scolaire, qui étaient les bons élèves, une des différences était la différence du langage. C'était la capacité à maîtriser un certain nombre de mots et de connaissances que je réalisais ne pas maîtriser dans mon milieu originel. Bien que par l'arabe, ayant moi-même une gamme assez élargie, mais qui malheureusement ne me permettait pas de plus facilement m'insérer dans un système qui était un autre que celui des parents. Et donc, j'ai découvert chez mes amis, en les fréquentant, qu'ils avaient des encyclopédies que nous n'avions pas chez nous, qu'ils écoutaient des types de musique à parole que nous n'écoutions pas chez nous, qu'il y avait un environnement culturel qui disposait à l'ouverture et à l'ouverture au monde et à sa variété, et notamment à donner un langage beaucoup plus riche. À partir de ce moment-là, à 14 ans, j'ai compris que tout se tenait là-dessus et je me suis mis à étudier énormément tout ce qui pouvait me tomber sous la dent. C'est donc dans ce cadre-là que cette impulsion s'est produite et que de 14 à 18 ans, bien qu'ayant fait un CAP de mécanique, puisque mes parents n'avaient pas les moyens de payer les études, j'ai été formé en autodidacte et me suis ouvert moi-même à la pensée philosophique, à la pensée littéraire et à tout ce qui pouvait ouvrir et nourrir mon esprit. Et c'est cet élément-là qui a créé la singularité d'une histoire, une rupture avec un milieu qui au départ était pénalisant, puisqu'un certain nombre important de mes camarades de ces époques sont restés dans le quartier, et sont restés même encore à Saint-Étienne dans un cadre socioculturel qui est resté le même.
Écrire, c'est magique. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai découvert que je faisais plus que de raconter une histoire. Tu vois, écrire, c'est une arme. Une arme plus puissante que n'importe quel coup de poing.
Après la connaissance du résultat de l'impact d'une balle dans le bide, après une mère qui regarde les yeux de son fils dans le vide, après un pointeur excité qui brise sauvagement une enfance, l'homme a su créer le mot souffrance. Des doses pour apaiser ou prose pour confesser. De la dépendance des substances possédées. Tendance impulsive, agressive, cherche son kiff au pif. L'homme a su créer le mot nocif. Perdu dans cet acte taudis. Tu sais ce qu'on dit? Ici c'est le scandale chez certaines familles. Il en existe encore aujourd'hui, perdu dans ses squats lugubres. L'homme a su créer le mot insalubre. Trompé par ces jolis mots qui représentent ce pays. Trahi par tant de promesses à aimer les gens qui nous haïssent. Quand j'entends voter pour moi, changer tout ça, j'y songe. L'homme a su créer le mot mensonge.
Les jeunes qui cherchent la merde quand ils savent pas quoi faire. Alors que certains cherchent à fuir tous ces pays en guerre. Si t'es un bonhomme et si tu veux dire bonjour aux anges, l'homme a su créer le mot échange. J'accuse ces mots. J'accuse ces mots.
Alors, vous avez expliqué effectivement que vous aviez 6 frères et sœurs. Pour eux, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu transmettre ça?
J'ai pas pu le transmettre assez facilement parce que ce type de démarche se fait généralement, et c'est malheureux de le dire, dans une situation de rupture familiale. Une certaine émancipation, un certain désir, un certain goût de la liberté, de l'autonomie personnelle, ne se fait souvent dans des environnements qui sont restés encore très traditionnels qu'au prix d'un certain nombre de ruptures. Un certain nombre de jeunes ou de jeunes filles en connaissent le prix, et cette trahison au passé et aux schémas parentaux qui souhaitent que le fils aîné soit la canne du papa et puisse avoir un métier qui correspond aux idéaux du père, un métier dans le pays, garagiste, c'est le métier que mon père souhaitait me voir pratiquer. Donc il a fallu réellement qu'il y ait des ruptures. Ces ruptures-là m'ont permis, moi, de continuer mon chemin en tant que personne autonome, mais de retrouver beaucoup plus tard et ma famille et mon environnement qui ont pu ensuite me réintégrer mon histoire et mon émancipation dans le cadre plus élargi de notre vie familiale. Donc mes frères et sœurs ont diversement eux aussi suivi leur voie, puisqu'il y en a un qui est devenu islamiste, qui sans être un intégriste violent est très proche des mouvements traditionnels wahhabites, un autre est devenu éducateur, nos itinéraires se sont éclatés, mais un des éléments quand nous retrouvons qui est un dénominateur commun, c'est le fait de s'être approprié un langage et une culture d'ouverture qui nous a permis d'avancer dans nos itinéraires avec le moins de ruptures possible, sauf celui qui a effectivement pris une voie assez radicale islamique, qui est resté dans un conservatisme protecteur et qui est un peu différent de nos évolutions.
Dans les autres familles, mais là on va parler plutôt des familles marocaines, parmi vos amis, est-ce qu'il y avait le même constat que vous avez pu faire à l'intérieur de votre famille? Est-ce que vos parents ne vous poussaient pas finalement à bien étudier à l'école pour être aussi bon que les Français reconnus comme tels, comme des bons élèves?
C'était le cas, mais nous avons été un petit peu, disons, dans la génération qui a précédé ou qui s'est trouvé juste au moment du regroupement familial. Et notre culture familiale pendant toute notre jeunesse et adolescence a été quand même construite autour du retour possible au pays. Et donc ce retour possible au pays donnait à nos parents plus l'idée de trouver un travail technique rapide qui pouvait nous permettre ensuite de retourner au pays en faisant dans leur esprit comme si rien n'aurait été différent. Et comme si on se serait intégré naturellement au pays. Effectivement, toutes les économies de mes parents et de beaucoup de mes amis à l'époque étaient investies par les parents dans le bled, dans la construction de maisons pouvant accueillir les grandes familles. Et le grand drame qui a été vécu pour beaucoup d'entre elles, c'est que beaucoup d'enfants n'ont plus voulu retourner et que ça a disloqué le schéma familial et souvent produit des ruptures qui sont traduites également par des ruptures scolaires.
Asseyez-vous et prenez une feuille d'eau. Vous allez faire une rédaction sur le sujet suivant. Une journée de vacances à la campagne. Voilà, vous avez jusqu'à la fin du cours.
Selim, vous avez entendu le sujet, alors vous prenez une feuille.
Ouais, monsieur.
On ne dit pas ouais, monsieur, mais oui, maître.
Putain de merde.
Qu'est-ce que vous avez dit?
J'ai dit que vous allez toujours après moi, rien parce que j'étais un arabe. Voilà ce que j'ai dit.
Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, vous êtes dans une école et vous devez le respect à votre professeur, c'est tout.
Et moi, je vous dis que ça a à voir avec ça, que vous êtes raciste. Sinon, comment vous expliquez que nous, les Arabes, on est toujours derniers?
Vous savez plus ce que vous dites. Regardez Omar, il est arabe, mais il fait pas partie des derniers. Si vous êtes dernier, c'est parce que vous êtes un fainéant, c'est tout.
Quel a été le parcours ensuite qui vous a amené à travailler avec le Sénégal et à monter votre propre ONG?
Quand on est dans un cas de figure un peu atypique, en dehors des livres, on a aussi un élément important qui balise une histoire, c'est les rencontres. Et à ce niveau-là, j'ai pu effectivement, en étudiant beaucoup, en écrivant, en envoyant des courriers à des personnalités intéressantes, j'ai pu rencontrer Pierre Rabhi notamment, qui avait à l'époque, en 1981, lancé au Burkina Faso un centre agroécologique des terres arides, avec lequel est également un dispositif touristique d'accueil. J'ai donc rencontré Pierre Rabhi faisant moi-même à l'époque une école agricole, et avec lui un coup de foudre a eu lieu. Il a été tout à fait, il a apprécié ma démarche de formation en agriculture, mais surtout d'autodidacte et d'évolution personnelle. Et il m'a proposé de venir en Afrique travailler dans le cadre au Burkina Faso comme animateur dans le cadre de son projet de promotion de l'agriculture biologique. Mais également, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnages intéressants, puisque avant Pierre Rabhi même et avant d'aller en Afrique, je suis allé en Orient et au Moyen-Orient, donc Inde, Pakistan, Syrie, Égypte, où j'ai vécu longuement. Dans ce que j'avais considéré comme important pendant mon adolescence, c'est de donner de la matière humaine aux connaissances intellectuelles que j'assimilais par les différentes bibliothèques et modes de connaissances, disons plus littéraires et théoriques. Donc j'ai fait de longs voyages pendant 7 ou 8 ans en Orient et au Moyen-Orient, en fréquentant beaucoup de bibliothèques, en fréquentant beaucoup de lieux, de centres d'initiation spirituelle, de soufisme traditionnel en Égypte. J'ai vécu à Jérusalem pendant presque une année. Et au terme de tout ce voyage, je suis rentré en France faire une école d'agriculture pour mettre les pieds sur la terre et pour restaurer une relation avec la nature que j'avais considérée importante suite à mes différentes rencontres au Moyen-Orient. Et à cette occasion-là, j'ai pu entrer en contact avec Pierre Rabhi et ainsi être invité à travailler en Afrique. Pendant quelques années, j'ai travaillé avec Pierre, qui est un personnage qui a une philosophie de la vie, une philosophie du développement, une philosophie de la relation avec la terre et l'écologie qui était très intéressante, qui a complété, disons, mon cursus plus théorique général et avec lesquels j'ai eu aussi une ouverture à ce qu'on appelle le développement, le monde paysan africain, et qui m'a donné ce goût dans les années suivantes de renforcer ce type d'action et d'engagement sur le terrain en Afrique. Pendant quelques années, cet engagement s'est fait dans la contribution et la participation à différents projets, mais de plus en plus m'est venue à l'esprit la nécessité qu'un développement ne pouvait être fait de plus en plus de nos jours que sur la base de contrats et d'engagements des paysans sur des filières et de la production et de la contractualisation. Donc, c'est dans ce cadre-là que, depuis l'an 2000, rentré en France, j'ai décidé de mettre en place avec un certain nombre d'amis une organisation qui engage des relations avec le Sud sur des filières de produits africains originaux, traditionnels, qui sont importants pour le patrimoine alimentaire africain et qui, pour certains d'entre eux, ne sont plus à l'ordre du jour, mais restent importants à certains endroits où les traditions sont conservées, eh bien, de nous engager à ce qu'on puisse constituer des filières économiques viables en leur donnant le pouvoir d'être renforcées par l'exportation. Et leur donnant une visibilité à l'international par l'exportation. Donc c'est à cette occasion que je suis présent aujourd'hui au Salon de l'économie solidaire, à la mesure où notre organisation, l'Orange Bleu, avec une entreprise de Midi-Pyrénées, nous avons travaillé ensemble pendant 4 ans sur la mise en place d'une filière de fonio biologique, donc une céréale africaine traditionnelle, que nous cultivons avec nos amis paysans au Sénégal et au Burkina Faso, que nous avons pu cette année donc obtenir la production nécessaire pour lancer enfin la commercialisation en France et en Belgique, et que nous avons le plaisir donc d'avoir ce produit, à la fois un produit alimentaire et un partenariat qui est en cours avec l'école hôtelière de Toulouse et l'école hôtelière de Dakar qui travaillent sur le fonio et la valorisation culinaire, mais également un partenariat dans une perspective à long terme avec les paysans, puisque entre paysans et consommateurs du Nord, puisqu'autour du fonio, des campements d'écotourisme agroécologique vont être mis en place dans les zones de fonio et permettre aux consommateurs de venir faire des séjours dans les zones où on produit le fonio au Sénégal et au Burkina Faso. Et également toute une série d'échanges divers autour de cette céréale et ce projet de développement économique qui est également un projet de développement humain et de projet de développement solidaire. Mais l'Orange Bleu, c'est également plus vaste que simplement une dimension de projets économiques en termes de développement et commerce équitable, nous avons aussi un champ très important pour nous d'engagement, qui est celui du patrimoine culturel. Et le dialogue des cultures et le dialogue des civilisations est pour nous un élément fondamental, qu'on retrouve par ailleurs d'ailleurs dans ce projet Foigneau. Mais un des axes qui m'est le plus cher, je crois, et qui correspond à cette problématique d'une personne qui est née dans un environnement assez déculturant et qui doit retrouver ses racines sans pour autant retourner dans le passé ou retourner dans le conservatisme religieux, eh bien, c'était de trouver une autre forme à valoriser notre orientalité, notre européanité, et de conjuguer cet ensemble de manière riche et qui soit créative. Donc dans ce sens, nous avons mené une réflexion pour essayer de trouver sur le terroir occitan où nous sommes adoptés et où nous vivons maintenant, où je vis maintenant avec quelques amis, eh bien de trouver un point commun entre l'Occitanie et le monde arabo-musulman, voire afro-arabo-musulman, en essayant de retrouver dans l'histoire les moments où il y a pu y avoir une rencontre intéressante. Et évidemment, cette rencontre existe, puisque c'est celle d'El-Andalus, qui, du 8e au 14e, au 15e siècle, a marqué d'un moment civilisationnel privilégié le sud de l'Espagne, et d'ailleurs toute l'Espagne, toute la péninsule jusqu'en Aragon, et donc un certain nombre d'échanges par capillarité, par affinité, par rencontre, par établissement également, jusqu'à Narbonne et Montpellier, dont les influences arabes ont été déterminantes. Eh bien, il y a eu pendant cette période un exceptionnel enrichissement mutuel, mais qui d'ailleurs, à travers les poésies courtoises et les troubadours dont on trouve aujourd'hui toujours les héritages vivants, eh bien, nous avons voulu faire un effort pour remobiliser ce patrimoine commun qui a pour particularité de prendre ses sources en Afrique vers le fleuve Sénégal avec les grands courants Mourabitoun et Almohade, mais également de l'Orient syrien avec la filiation Omeyyade, et cette particularité de l'importante communauté juive et chrétienne dans l'Espagne visigothique qui a qui a été envahie, mais qui a donné lieu dans les 7 siècles de coprésence de toutes ces cultures à des moments de dialogue absolument uniques et privilégiés, dont les vestiges font la nostalgie de tous ceux qui pensent, tous ceux qui rêvent de dialogue des cultures, et dont les vestiges visibles aujourd'hui laissent la trace d'un moment de civilisation exceptionnellement évolué. Donc nous travaillons à faire en sorte que ce patrimoine, dont nous construisons l'action à travers un institut qui s'appelle Occitanie El Andalus, donc nous faisons en sorte que ce patrimoine soit remis à jour, qu'il soit communiqué, qu'on en fasse des animations, des actions, des publications, et qu'on fasse connaître au grand public, au public des jeunes maghrébins, des moins jeunes maghrébins, des générations suivantes, mais également des Français, de tous ceux qui ont à partager une identité européenne qui est en train d'émerger, de comprendre toutes ses composantes et ses richesses méditerranéennes, mais aussi de savoir que, immigrés aujourd'hui, ils ne l'ont pas toujours été, et que l'Afrique, l'Orient et l'Europe se sont rencontrés en Espagne à une certaine époque, et ça a permis de donner un certain nombre de richesses architecturales, techniques et notamment philosophiques qui ont contribué à l'émergence de la Renaissance, et que cette rencontre-là s'est faite en ce temps-là et qu'elle est actuellement et toujours, nous en sommes actuellement et toujours les héritiers, et qu'il est important d'en garder la mémoire, et cette mémoire peut peut-être nous aider à mieux comprendre aujourd'hui comment reproduire de la culture et de la civilisation du dialogue comme elle s'est faite en ce temps-là.
Hassan Aslafi est donc coordinateur général de l'Orange Bleu. L'Orange Bleu est une ONG engagée à promouvoir le dialogue des civilisations et des cultures dans le cadre du développement durable. Elle travaille à créer des passerelles entre Nord-Sud, tradition et modernité, Orient et Occident. C'est elle qui, tout récemment, vient de lancer la commercialisation équitable de Foigneau biologique. Tous les renseignements concernant cette céréale longtemps oubliée sur www.l'orangebleu.org, vous y trouverez aussi des liens sur l'Institut Occitanie Al-Andalus. Quant à Hassan, il compte bien publier un livre sur son parcours afin de transmettre son expérience.